Exceptionnellement, ce soir, mes frères et mes sœurs, la causerie est en direct de la cathédrale Saint-Jean pour Auvers Science. Bon, allez, on arrête les blagues, on est bien en direct des studios de Radio Canu sur le 102.2 et c'est la causerie 22-23 comme tous les dimanches, enfin, sauf quand on n'est pas là. Ce soir, autour de la table, on a Jean-Yves.
Bonsoir.
À la technique, on a Clara.
Bonsoir.
Et on reçoit Controversions, qui est représenté ce soir par Thibaut.
Bonsoir.
Et par Nico.
Coucou.
Mais ils ne sont pas venus seuls. Alors, il y a aussi Judith.
Bonsoir.
Et...
il y a aussi, alors une voix, allez, non ça sert à rien, on vous laisse écouter, vous nous dites qui c'est.
Appelez-nous.
En tout cas c'est Georges, bonsoir.
Voilà, Georges, notre astronome amateur
c'est
éclairé.
Ça. C'est ça.
Dans cet ordre-là. Voilà. Et sinon, salut les causeuses qui ne sont pas là, c'est-à-dire...
Emma, Jonathan et Nadège. On leur fait des bisous et puis on retrouvera une partie de cette équipe-là la semaine prochaine, normalement.
Ouais, tout à fait.
Voilà.
On y va, on se plonge dans Controversions ou on donne d'abord comment on nous contacte?
C'est peut-être une bonne idée, ouais. Mais après... si
alors
envie,
donne un mail. donne.
Pardon. Non, c'est lacauseriecanu@gmail.com.
Et l'émission, vous pourrez la retrouver sur le blog. Ensuite, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie, voilà, ou sur les blogs de Radio Canu. Vous allez sur le site et vous trouverez ça facilement. Allons-y, plongeons-nous dans Controversions.
Plouf.
Non, c'est pas ça que j'attendais de ta part. Mais...
non, ok. Eh bien, comme à notre habitude, souvent quand on reçoit des collectifs alors, ou des artistes ou autres, c'est un petit peu resituer en fait, qui vous êtes, enfin vous présenter. Et puis, on peut-être bifurquer directement après un peu sur comment vient l'idée d'un site comme Controversions.
Ils se font des politesses.
qui parle en premier, je voulais quand même plutôt laisser l'honneur à Thibaut, c'est quand même ton projet à la base, non?
Merci Nicolas. du coup, moi, donc Thibaut qui suis en biologie, et parce que c'est un domaine où c'est assez sensible, il y a beaucoup de controverses, c'est venu l'idée de créer un site qui regroupe exclusivement les controverses, donc qui n'est pas une encyclopédie générale, mais beaucoup plus adapté à des sujets qui sont plus pointus, mais de façon à faire en sorte qu'ils soient mieux expliqués et accessibles au public.
Ouais, ça me semble bien.
Mais toi, qui es-tu, Nico?
Est-ce que je spoil mes origines canusiennes aussi?
Tu peux, parce que c'est fait.
Bah du coup, je fais aussi partie de l'émission Le Petit Bazar, qui est tous les samedis de 13h à 14h. Et ça faisait un moment que je me disais que la présence de Thibaut ici serait aussi géniale, quoi. Et donc vous avez eu l'amabilité de l'inviter pour présenter un peu son site.
Mais en même temps, il fait pas de musique, donc dans Le Petit Bazar, c'était assez bizarre.
Ah, voilà, nous on le voyait pas trop l'inviter. Bon. Mais depuis le début, à la base, c'est l'idée quand même de Thibaut tout seul. Hein, il faut lui rendre à Thibaut ce qui était à Thibaut. Mais là où sa démarche a été vraiment géniale, je trouve, et je continue de lancer des fleurs, mais il faut bien, c'est que depuis le début, il a voulu intégrer des gens à son projet sans que ce soit voilà ma vision, vous y adhérez ou vous dégagez. Depuis le début, l'idée, c'est que le projet s'enrichit continuellement des contributions des personnes qui le rejoignent.
Alors là, tu vas déjà loin, parce qu'on n'a pas encore dit ce qu'était le projet.
C'est vrai.
Donc, on va peut-être commencer par
ça.
Controversé en Zoom, c'est pas grave. Ça naît quand? Parce que c'est un site, on va dire clairement. C'est donc le site, déjà, c'est controversience.org. Voilà, j'avais oublié.
Faut que tu le dises dans le micro, hein, pas à Fab.
Et si on le dit dans le micro, c'est pour les auditrices et auditeurs. Et donc, c'est né quand?
Et c'est né les premières lignes de code, d'abord avant de naître, parce qu'il faut le concevoir avant qu'il accouche. Donc ça prend un peu moins de 9 mois, mais ça prend du temps quand même. Et les premières lignes de code ont dû commencer en septembre 2014, et pour en voir le jour en 2015, début 2015. Donc un site absolument moche à ce moment-là.
Bon, quand même, ça va.
Au début 2015. Et qui continue en fait à être enrichi, les lignes de code, ça, soit on en rajoute, soit on en enlève, mais ça continue à bouger. Et c'est né, donc le nom est né à peu près en même temps que les premières lignes, donc pareil, septembre 2014, et l'idée est née 2 mois avant à peu près, pendant l'été.
C'est marrant, t'as pas dit d'habitude quand il parle de la création du site, il dit que c'est né autour d'une machine à café.
Ah bah c'est des labos de recherche, donc comme on passe notre temps devant les machines à café.
Mais justement, en fait, cette idée-là, c'est cette idée de monter un site de médiation, c'est bien ça?
Exactement, c'est le mot exact.
Et pas de vulgarisation. Et ça t'est venu à toi tout seul, c'était avec des échanges, enfin en échangeant avec d'autres étudiants et étudiantes, avec peut-être même des salariés, j'en sais rien, enfin je connais pas forcément le domaine dans lequel t'évolues, enfin je suis pas un habitué. Donc c'est, enfin voilà, ça devient comment? C'est toi tout seul dans ta tête ou...
Ça venait. Alors déjà, c'était une année où j'avais pris une disposition donc pour travailler pendant un an sur des projets. Et je travaillais déjà sur un autre projet. Je m'étais dit qu'il fallait un deuxième projet pour pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et donc il y a eu deux mois de réflexion pendant l'été à me dire mais qu'est-ce que je vais faire l'an prochain. Et donc à mettre ensemble ce que j'avais envie de faire, ce qu'il y avait besoin de faire, ce que je savais faire, ce que je savais pas faire, que je voulais apprendre. Et au fur et à mesure, ça s'est construit. J'ai demandé, ah bah oui, c'est là qu'il faut aller. Go.
Tout simplement, quoi.
Et non, simplement, il y a aussi le passage de on cherche des informations sur une controverse spécifique et on trouve rien.
Ouais.
Enfin, rien de scientifique en tout cas.
Ou alors quelque chose qui mélange Wikipédia, tu mentionnes souvent, ça va mélanger autant des références vraiment scientifiques, entre guillemets, que des références qui viennent d'un peu tout et n'importe quoi.
Ce soir, je suis le coach en disant hop, 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 hop. Alors oui, parce que controverse, parce qu'on a bien compris, controverse science, d'accord? Pourquoi controverse? C'est quoi une controverse scientifique?
Ah oui,
parce que là, on balance ça comme ça.
On a le droit à un appel à un ami.
Au micro, comme ça, tranquille, mais
Il y a controverse, justement, dans ce que tu as dit, Fabien, il y a les controverses scientifiques, mais il y a aussi des controverses qui ne sont pas scientifiques, qui sont plutôt des controverses sociétales, et pour lesquelles les scientifiques ont des réponses. Alors, les deux sont intéressantes. Alors, pour tout de suite les définir, les controverses scientifiques sont celles où les scientifiques ne sont pas d'accord. Donc, pour différentes raisons. Soit parce que les deux sont vrais, soit parce qu'aucun des deux n'est vrai. Mais dans tous les cas.
Tout simplement parce qu'il y a deux théories qui s'affrontent pendant une période, et que tant qu'on n'a pas assez de données, on ne peut pas savoir laquelle est la plus juste. Hein.
Donc, on est dans un état où, effectivement, il y a deux visions différentes, ou voire plus, qui s'opposent des arguments. Donc, ça, c'est une controverse scientifique, et c'est assez fermé, enfin, c'est très dur à comprendre. Et les controverses sociétales sont celles que... Les scientifiques
enfin, c'est plus dans l'idée, c'est dur à comprendre, ça dépend de la controverse en question, mais c'est vrai que souvent ça peut être aussi très technique où il faut voilà, être dans le domaine vraiment pour y avoir accès, quoi. Alors qu'une controverse sociétale, peut-être tu vas dire, mais par exemple, j'en sais rien, moi, sur est-ce que les vaccins, parce que j'y pense parce que c'est une des controverses qui peut être sur le site, même si elle n'est pas encore éclose, je crois.
Oui. Mais... Oh, t'as donné une avant-première.
Voilà.
Merci, c'était pour la causerie, c'est genre.
Gros, par exemple, poser la question de est-ce que les vaccins ont des effets secondaires, ça peut être une question que tout le monde se pose parce qu'on est tous amenés à avoir des vaccins dans notre vie ou à avoir à donner des vaccins à nos enfants, quoi. Donc c'est légitime de se poser la question, qu'est-ce que la science dit à ce sujet ? Est-ce qu'il y a une réponse pour tous les vaccins ? Est-ce qu'il y a des réponses différentes selon les vaccins, etc. Mais je te laisse reprendre.
C'est, en général, c'est exactement ça, des controverses sociétales où les scientifiques sont plutôt d'accord. Il y a une majorité, enfin il y a des réponses.
Et un consensus,
par contre, un consensus, mais dans la société civile, c'est beaucoup plus compliqué. Pour différentes raisons, soit parce qu'il y a des acteurs qui essayent de tirer chacun d'un côté ou de l'autre. On l'a très bien vu dans le cas des OGM.
Même du tabac avant.
Du tabac.
Quoi,
hein, on a énormément de controverses comme ça où il faut démêler tous les acteurs, les enjeux financiers, les enjeux politiques. Et ça devient très très compliqué. Et nous, ce qu'on veut dans ce cas-là, c'est apporter juste des faits scientifiques. Pas justement quelque chose qui soit biaisé, l'être le plus objectif possible.
Oui, parce que derrière les histoires dont on parle, on oublie aussi le lobbying, etc. Des entreprises qui tirent un profit. On peut prendre par exemple les OGM, mais enfin, ou même le Médoc. Hein, enfin, quand on sait que des études sont réalisées par les boîtes qui promotionnent ces produits-là, ça peut interroger effectivement sur l'objectivité même de cette étude. Après, c'est peut-être moi qui me trompe, mais est-ce que ça colle ?
Oui, non, c'est exactement, c'est exactement ça.
Bon, on le sait très bien aujourd'hui que, par exemple, le tabac, pendant des années, il y a eu un lobbying fort qui poussait à certains pseudo-scientifiques au final à dire que le tabac n'avait pas d'impact sur la santé, alors que la majorité des scientifiques avaient montré que si ça avait un impact et qu'il était avéré, quoi.
En fait, vous vous amenez les sources scientifiques qui permettent de s'armer par rapport à ce genre de controverse-là.
Exactement.
Oui. J'ai essayé de résumer. C'était bien.
C'est ça. Et de manière collaborative. Parce qu'on essaye de faire en sorte que, effectivement, chacun a son point de vue. Chacun a une connaissance très parcellaire de la science. Chacun fait ce qu'il peut et qu'il faut se mettre ensemble si on veut avoir quelque chose de beaucoup plus objectif et d'avoir des points de vue. Enfin, même dans le cas de la science qui tend à être le plus objectif possible, il y a des points de vue, il y a des connaissances qui sont différentes. Et si on ne travaille pas ensemble, on arrivera toujours à quelque chose de biaisé dans tous les cas. Donc, pour éviter au maximum les biais, on fait quelque chose de collaboratif où chacun soit apporte des références, soit fait des analyses, soit fait des synthèses générales. On a plusieurs façons de faire qui fait que on contribue autour de ce projet-là.
Et bien justement, alors ce que je propose, c'est qu'on va peut-être faire une pause, si ça vous va. Et en fait, on continuera peut-être justement à causer après de les différentes formes aussi de contribution, de comment enfin, on peut participer au site, etc. Ça vous va comme ça ?
C'est parfait.
Allez, on va sur de la musique. We'll be right back.
est de retour dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu ou radiocanu.org avec ce soir Controversions qui, comme d'habitude, a fait le choix des musiques que nous avons entendues. Et là, il va falloir que tu en annonces...
Je tiens à préciser que c'est Thibaut.
Thibaut, tu vas devoir nous annoncer deux titres, celui avec lequel on a commencé et celui qu'on vient d'écouter.
On a commencé avec The XX Intro et là, on vient d'entendre Song 2 par Blur.
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 Je savais pas trop comment le dire.
Ok. Vas-y.
T'étais
lancé. Alors avant, on a terminé la première partie en commençant tout doucement un petit peu à causer de les personnes qui vont contribuer de différentes manières. Alors est-ce qu'on le fait tout de suite? Est-ce qu'on peut partir là-dessus? Peut-être justement expliquer un peu les différentes manières effectivement de contribuer au site.
Moi je m'achale.
Alors Nico il est en train de bouffer un bonbon. Il mange pas que tu colles Thibaut.
Alors la façon dont on se base sur des sources qui sont scientifiques, et ces sources là c'est donc des publications qui sont dans des journaux scientifiques qu'on appelle peer reviewés, donc en français c'est vérifié par des pairs. Je pense que c'est la meilleure traduction qu'on puisse trouver. Et ça veut dire que les scientifiques vont vérifier que le travail était bien fait, que tout est en ordre, et après que ce processus soit que les d'autres pairs ont dit que c'était valable, la publication devient accessible pour tout le monde, enfin pour tout le monde, pour les autres scientifiques. Donc elle passe par un processus éditorial qui est assez lourd et compliqué, qui permet de vérifier que c'est un travail scientifique.
Il faut aussi préciser qu'il y a des filtres à ce niveau-là. C'est-à-dire que si un travail est jugé vraiment mauvais ou entre guillemets, c'est-à-dire que si on voit que dans une étude il y a vraiment des trucs qui ont l'air un peu louches, quoi, on dirait que les données elles ont pas été acquises d'une manière très rigoureuse, ce qui arrive hein, des fois, mais il y a même des articles qui passent, mais a priori ce genre d'articles peuvent aussi être bloqués à la publication. C'est-à-dire que c'est aussi tout l'intérêt, c'est pour ça qu'on parle de publication scientifique, dans le sens où il y a un ensemble de scientifiques qui vont vérifier et donc filtrer l'information qui va être publiée dans ces revues. Et donc si quelqu'un poste un article sur Internet, par exemple sur son blog, ça ne va pas nécessairement être acté comme une publication scientifique. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve sur Internet ou dans mon quotidien ou dans n'importe quel journal n'est pas nécessairement une publication scientifique. Je pense que c'est important.
Oui, il faut que ça respecte un protocole bien particulier, en fait.
Avec différentes revues selon les domaines, selon l'exigence qu'on en veut. Il y a vraiment tout un panel de journaux dans lesquels les scientifiques peuvent publier. Avec certaines qui sont beaucoup plus techniques, d'autres qui sont un peu plus grand public, enfin, beaucoup plus large en tout cas, celles qui sont plus sur les découvertes majeures, celles qui sont axées sur la biologie, etc., etc.
Parce que justement, je trouve que c'est intéressant de préciser ça, parce qu'on peut, alors moi qui connais vraiment rien dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, on peut être parfois amené à voir à la télé, par exemple, ou à la radio, entendre des spécialistes nous parler d'études. Et je trouve que c'est intéressant, justement, de aussi préciser qu'il y a quand même un protocole aussi pour que ça puisse avoir une certaine. Pour qu'on puisse le nommer d'une certaine manière, etc., etc. Je trouve que c'est hyper intéressant de rajouter ce genre de petits détails-là.
Et l'autre truc aussi, je pense, qui est essentiel à la science, mais en particulier peut-être à la biologie. Peut-être aussi à la physique, même si selon les domaines, c'est peut-être plus dur. C'est aussi que on passe par une réplication des résultats. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de cas de fraude dans la science. Il ne faut pas croire que c'est aussi un domaine parfait, parce que c'est aussi souvent très idéalisé dans les médias. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une étude qui sort, qui dit un truc, on considère tout de suite que c'est la parole sainte, quoi, que c'est la nouvelle Bible. Alors que souvent, une équipe trouve un résultat, ça passe quand même à la vérification par les pairs, mais demain, y a 2-3 autres équipes qui essayent de répliquer le même résultat pour essayer d'aller plus loin, poser une autre question en se basant ça, et au final, ils n'arrivent pas à reproduire le même résultat. Donc là, ils se disent, il y a peut-être un truc qui déconne dans votre étude, quoi.
D'un point de vue médiatique, tu as surtout un effet du titre. C'est comme ça que les Bogdanov font de la télé depuis des années, alors que ce sont de très mauvais scientifiques, alors que tu n'as pas le temps. C'est-à-dire qu'en fait, la science, ça demande du temps. Et du coup, comme la télé, ça va vite, comme la radio, ça va vite, comme les journaux, ça va vite, on prend pas le temps. Mais alors, du coup, Controversions, on prend le temps ou pas sur Controversions?
on se base sur quelque chose qui a pris du temps à être construit surtout. C'est que ces publications, elles ont été... ça fait des années que certaines ont été publiées, qu'on a pu les vérifier, qu'on a pu faire d'autres expériences qui ont pu prouver ce qui s'était passé. Et donc on se base sur toute cette montagne de connaissances-là, en fait, qui n'est que très peu exploitée actuellement dans les médias. Et même sur des encyclopédies en ligne ou des revues qui se veulent scientifiques, citent très peu leurs sources et ces études-là. Donc actuellement, on est vraiment sur une grosse masse d'informations qu'on n'a pas su exploiter.
Alors, vous avez parlé des médias. J'ai un exemple récent à propos de la fameuse 9e planète. Ah, je suis désolé, je parle de mon domaine.
De son rayon.
Où on a vu à la télé un journaliste nous affirmer qu'elle était de type terrestre, c'est-à-dire tellurique avec un sol. Alors que finalement, cette planète, on ne l'a découvert que par les perturbations gravitationnelles posées sur Neptune. On n'a aucune idée de ce à quoi elle ressemble, de sa taille, on n'en a pas la moindre idée, on a juste sa masse. Mais ce journaliste-là nous expliquait qu'elle était semblable à la Terre, avec un sol solide, une planète tellurique. Voilà un exemple...
Et du coup, tout de suite, les gens peuvent s'enthousiasmer et se dire « Oh là là, on a trouvé une nouvelle Terre !»
Oui, un mauvais exemple de la part des médias et des filtres qui n'ont pas fonctionné.
Mais du coup, j'ai posé une question un peu vacharde, mais donc controversiance, vous êtes pété de thunes. Parce que quand on voit le prix que ça coûte d'aller récupérer une donée scientifique publiée... Vous avez un
Êtes financé par Liliane Bettencourt, dites-le.
C'est ça. Avouez-le maintenant.
Dites-le maintenant.
Je pense qu'il faut peut-être déjà rappeler aussi comment le site fonctionne. C'est pas nécessairement développé.
Parce que c'est public.
Dans tous les cas, ce qu'il y a de mieux, c'est d'aller voir sur controversience.org. Mais en fait, le principe de base, c'est déjà, on l'a pas dit, mais pour avoir un compte, il faut soit avoir une adresse liée à une université. Donc une université n'importe où en France, soit faire une demande spéciale que tu valides, s'il me semble bien.
Oui.
Donc il est aussi possible de ne pas...
Aucun admin valide.
Ouais, mais est-ce que... ça c'est une question que même moi je te pose, mais est-ce qu'il faut être scientifique pour avoir un compte ou est-ce que...
Non, pas forcément. Et tu peux par avoir exemple, les professeurs sont intéressés, c'est enthousiaste.
Mais l'idée c'est qu'une fois qu'on a un compte, on peut aussi voter et donner son avis par rapport... aux analyses des articles qui sont faites, mais aussi par rapport à la rigueur des articles. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le principe du site, c'est donc de mettre une controverse, donc une question, en fait, qu'on pose. Donc, par exemple, on disait tout à l'heure, est-ce que les vaccins ont des effets secondaires? Est-ce qu'il y a une 9e planète? Est-ce que cette 9e planète est une planète qui ressemble à la Terre? Par exemple, ça pourrait être une controverse. Et à partir de là, les gens vont rajouter des références scientifiques, donc qui sont dans des revues scientifiques. Et une fois que ces articles sont postés, en général, ces articles sont anglais, malheureusement ou heureusement, parce que...
C'est la langue des sciences internationales.
Voilà, à l'heure actuelle. Et donc, une fois que c'est fait, vu que le principe du site, c'est d'être francophone, le but, c'est de faire une analyse de cet article. Donc déjà, pour dire en quoi cet article apporte quelque chose par rapport à la question qui est posée. Et ensuite, aussi tout simplement dire qu'est-ce que l'article contient, puisque tout le monde ne parle pas nécessairement anglais, donc c'est aussi intéressant d'avoir accès à tout simplement cette connaissance, quoi. Et une fois que ça c'est fait, donc il y a un ensemble d'articles qui vont être ajoutés, et une fois qu'il y a une quantité suffisante, entre guillemets, d'articles, il est possible de faire une synthèse, donc pour résumer l'état de la connaissance sur la question qui a été posée, mais uniquement en se basant sur les articles qui ont été mis dans la controverse, quoi. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit rappel aussi du fonctionnement du site, parce qu'on ne l'a pas nécessairement fait depuis le début.
C'était bien.
C'est très clair.
Concis,
merci.
Précis.
et donc tout l'intérêt aussi par rapport à ça derrière, c'est de aussi dire si les articles sont rigoureux ou pas, quoi. Donc pour que les pairs, donc les autres scientifiques, disent a priori il y a eu du lobbying, comme tu le disais tout à l'heure, ou là-dessus il y a un truc, le protocole n'est pas rigoureux, donc leur résultat n'est pas très fiable, ou c'est une bonne étude, mais elle n'a rien à voir avec la question qui est posée, quoi.
Et pour répondre à la question, donc, ces publications-là, vous pouvez trouver les liens sur Internet qui mènent à ces publications. En général, ils sont très chers. parce que c'est un processus éditorial qui est mis en œuvre par des grandes entreprises telles que Reuters ou Elsevier et qui font payer les abonnés. Donc il y a deux types de revues. Il y a celles qui sont libres pour l'auditeur, enfin pour le visiteur, et celles qui ne le sont pas. Donc pour celles qui le sont, donc ce à quoi la science est en train de tendre en ce moment, c'est vers l'ouverture de ces données et l'ouverture de ces publications. Donc celles-là sont accessibles effectivement. Donc si quelqu'un qui visite le site a envie de se référer à la référence initiale, qui est en anglais, s'il a envie de la lire, il pourra, dans le cas où elle est libre. Dans le cas où elle n'est pas libre, effectivement, il ne pourra pas. Ou alors débourser un petit 40 euros par publication pour pouvoir le faire et pouvoir vérifier effectivement ce qui est dit dans les analyses. Et dans le cas où vous nous demandiez effectivement si on avait les sous pour faire ça, non, enfin on ne permet pas de... Merci Nico. Comme on est dans une radio pirate, on peut en profiter ici pour le dire.
Anciennement pirate.
Anciennement pirate. il existe actuellement des solutions pour passer à travers ces filtres-là et pour récupérer ces publications. Et sur Controverscience, on a fait le choix effectivement d'utiliser ces proxys-là afin de pouvoir récupérer les publications lorsqu'elles ne sont pas accessibles. Ce qui permet en fait d'avoir accès réellement aux sources. Car on se retrouvait bloqué en fait à dire bah regardez on a des références, regardez on a les analyses, mais en fait ils pouvaient même pas accéder aux références car elles sont payantes. Donc on a pris le parti d'utiliser des proxys afin de permettre de les retrouver finalement. Donc de pouvoir monter toute l'échelle d'une synthèse aux analyses aux références elles-mêmes.
Parce que je vais essayer de résumer l'arnaque des publics.
Des éditeurs,
voilà, c'est mieux.
Non, c'est pas grave, je te
reprends. Oui, ça va bien. C'était ce que tu expliquais, c'est-à-dire que quand un scientifique donc travaille, il est généralement payé par l'État, d'ailleurs, c'est ce que tu disais, enfin payé, voilà. Il va payer pour être publié, et ensuite on va devoir payer pour lire ce qu'il a publié, et lui va devoir payer pour republier ce qu'il a publié.
C'est-à-dire que sachant que lui ne gagne pas un sou de la vente de l'article ou de
fait, voilà. C'est-à-dire l'éditeur se met plein les poches
à part l'édition. Sachant que l'autre truc que tu n'as pas dit aussi, c'est que on disait tout à l'heure, les articles sont reviewés par les pairs, c'est-à-dire que les autres scientifiques vont étudier l'étude pour dire si elle peut être publiée ou pas. Mais cette étape-là non plus...
Elle n'est pas gratuite, celle-là.
Ils ne sont pas payés, hein, d'après ce que on est d'accord.
Il y a différentes voies actuellement qui sont étudiées. Donc, c'était majoritairement ce que tu décrivais, Fabien. Mais actuellement, on étudie de nouvelles voies en science pour rendre ces publications accessibles. Donc, c'est assez compliqué de tout décrire, mais il y en a où, effectivement, le scientifique payera une fois et après, tout sera disponible. Il y a des cas où c'est l'institution qui... Enfin, différents cas disponibles selon comment est financé l'éditeur, en fait, qui permettront de faire en sorte que ces publications seront libres.
Mais il faut dire aussi qu'il y a déjà des éditeurs qui... Enfin, c'est un peu une sorte d'autogestion, quoi, où c'est des éditeurs qui sont pas... où c'est pas payant, quoi. Ou c'est juste genre PNAS.
Oui.
Il me semble que c'est juste reviewé par d'autres scientifiques. Et à partir du moment où c'est validé, c'est dans la revue, mais c'est gratuit à la lecture et aussi à la publication.
C'est les autres voies que tu décrivais, en fait.
Oui, c'est ça. C'est une des...
Mais c'est un peu.
Je mentionne parce que c'est une des revues en biologie qui est assez bien cotée et qui est gratuite dans les deux sens.
C'est un peu l'effet du wiki, quoi, en fait. Parce que c'est le wiki qui est né dans les années 90 pour partager les connaissances de l'informatique au départ, c'était l'idée, qui s'est maintenant répandue. Wikipédia, c'est pas forcément la meilleure expérience possible de wiki, même si c'est assez bien foutu. Mais par contre, en termes scientifiques, on a de plus en plus d'échanges comme ça, direct, en wiki. C'est-à-dire, tu mets à disposition.
Mais parce qu'en plus, je trouve que ça interroge aussi sur à qui appartient le savoir, quoi. Parce que même si c'est que des études ou des publications, enfin, vous me corrigez si les mots sont pas les bons, mais c'est encore une fois, déjà, ça s'adresse à ceux qui ont du pognon. Enfin, et que, je suis pas sûr que sur les 7 milliards qu'on ait, en fait, même si ça ne fait pas 7 milliards de gens qui vont forcément aller chercher à lire des publications, en tout cas, ça en coupe quand même à beaucoup, quoi, parce que, juste débourser 40 euros pour lire un truc,
Mais...
sauf si c'est vraiment ton taf ou ta passion, mais ta super passion, quoi.
Oui,
ben ouais, tu vas pas les sortir.
En général,
même
la plus grande
université. C'est plutôt lu par les autres universitaires et les autres chercheurs. Hein. C'est quand même des trucs qui sont très techniques. Et
d'accord.
Qui sont pas. Déjà, tout est en anglais, hein, comme on le disait en général. Il y a très peu de choses qui sont écrites dans la langue du pays dont les gens viennent. Donc c'est déjà
ce
une.
Ce qui est
limite.
Aussi une barrière assez étrange, je trouve, moi, en termes. Voilà.
Et même actuellement, les plus grandes universités américaines n'ont pas eu les moyens, dernièrement, de payer l'ensemble du bouquet. Donc certaines universités américaines, très grandes, ne peuvent pas payer l'ensemble des revues.
C'est trop cher.
C'est trop cher.
Donc, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'en fait, en général, les universités payent un abonnement aux revues en question, ce qui permet de les rendre accessibles à tous les chercheurs qui font partie de cette université.
Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à ce qu'on disait au début sur la presse scientifique. On imagine mal, par exemple, 20 minutes payées pour avoir lu la source qu'ils citent dans leur article.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire?
Parce que
du coup, comme on voit le coût que ça peut avoir, on imagine très mal.
C'est-à-dire que le journaliste n'a pas nécessairement vérifié
sa source,
l'article initial.
Voilà. Et la boucle est bouclée.
Effectivement.
On petite pause?
Ah bah allons.
Allez. Dans les années 90, c'est bien la causerie sur le 102.2 sur RadioCanu.org.
J'ai dit, c'est Thibaut qui a choisi.
Avec Linkin Park, et oui, Breaking alors. The Habit.
C'est... Non, moi j'aime beaucoup, mais ça m'a fait d'un seul coup rajeunir. C'était bien. Ben oui, toujours controversiance à la causerie, et donc ben, continuons à parler de tout ça.
Oui, il y a Nico justement qui voulait apporter une précision.
Moi j'avais juste une remarque par rapport aux langues, hein. On disait tout à l'heure c'est l'anglais qui prédomine, et mon père est en linguistique, et il est prof en linguistique, et il a toujours dit que ça l'a toujours dérangé justement la prédominance de l'anglais, parce que en fait, selon la langue dans laquelle on se place, on a aussi certains modes de pensée qui vont être favorisés par rapport à d'autres. Mmh. Et donc le fait que toute la science soit pensée, exprimée en anglais, c'est quand même une manière de voir le monde qui est spécifique, et que c'est bête, mais en fait certaines autres langues permettent d'avoir des points de vue légèrement différents, et donc d'avoir d'autres réflexions et d'autres manières de dire les choses. Et donc c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ne soit pas dans un contexte un peu plus multilingue, mais bon après... Ça a toujours été une limite que tant que les gens parleront pas plein de langues, ce sera dur aussi de pouvoir échanger.
Mais c'est aussi lié à ce qu'on a appelé la séparation des mondes, c'est-à-dire la diplomatie en français et la science en anglais.
Oui, mais on peut remonter encore avant, dans les Renaissance, tous les grands penseurs échangeaient tous en latin parce que c'était la langue qu'ils connaissaient tous. Donc, et puis ça faisait plus...
ça faisait classe.
Voilà.
Pour le vulgarum pecus.
Et puis tout le monde parlait pas latin à l'époque, quoi. Donc ça permet
ça permet une petite position de pouvoir. Voilà. J'avais une réflexion avant et je l'ai perdue. Non, je suis désolé. En fait, mais c'était autour du site, si. Parce qu'avant, on parlait. En fait, c'était Fab. Je crois que tu avais rebondi. Merci. Sur la densité en fait des lectures. Est-ce que c'est très lourd aussi à lire ou pas? Est-ce que sur Controversion, c'est du 20 minutes, c'est-à-dire en 5 minutes, t'as lu la moitié du site? Et il y a plusieurs degrés,
Donc déjà, pour ce qui est des controverses qui sont scientifiques et sociétales, il y avait déjà un degré de séparation. Mais il y a effectivement des cas où les analyses... Et ça dépend aussi du degré de lecture qu'on veut en avoir, en fait. Donc si on veut juste lire la synthèse, on peut juste lire la synthèse. Si on a envie de lire la synthèse avec toutes les analyses des références, on peut lire tout ça, donc ça prend un peu plus de temps.
Et si on veut lire
les références, alors là on en a pour un petit bout de temps, c'est un travail bibliographique.
Mais si tu t'intéresses vraiment à un sujet en particulier,
on n'est pas justement un journal qu'on aurait tendance à lire dans le métro typiquement, où c'est des gros titres. C'est plus un endroit où on va venir chercher des informations quand on en aura besoin. Donc ça ressemble beaucoup plus à une encyclopédie dans laquelle les informations sont, plutôt que quelque chose de rapide, à tendance inverse à ce que devient le web actuellement, des contenus qui sont prédigérés, où il y a juste le titre qui compte, plein de choses qui se font en moins de 140 caractères et ce genre de choses. Nous, on va plutôt justement en sens inverse. Alors, on sait que
t'as imposé quand même une limite de caractère, il me semble, sur les différents.
Oui, complètement. Afin que ce soit concis.
C'est quoi concis en nombre de caractères? La limite que t'as mise, elle est à combien?
Ça dépend des rubriques, en fait.
Ça dépend des rubriques, et pour une synthèse, c'était de l'ordre de 12 000 caractères, je crois.
Ah, 12 000 caractères, ça commence à faire.
C'est pas mal. Hein.
Oui, ça fait.
Non, mais après, pour les analyses des articles, par contre, c'est beaucoup plus limité. Je sais plus.
Oui,
Non, mais je dis ça, c'est pour que les auditrices et auditeurs se rendent compte que quand on dit une limitation de caractères, c'est pas Twitter. Ça fait déjà 12 000 caractères. C'est déjà. Même la synthèse, il faut prendre le temps de la lire. Ça se lit pas en deux secondes comme ça.
Mais après, on peut aussi juste cliquer pour voir la répartition des références, quoi.
Oui, on peut.
Donc, voir si les références disent plutôt oui ou plutôt non à la question, par exemple.
Oui, on a essayé d'être le plus large. Donc à avoir une information qui puisse être accessible assez rapidement, donc effectivement par des visualisations graphiques qui disent est-ce que les références se placent d'un côté ou de l'autre, ou effectivement avoir complètement accès aux sources et aller chercher ces sources-là.
Ce qui est marrant, c'est que même les articles scientifiques, en règle générale, pour rappel, parce que j'imagine bien que tous les auditeurs n'ont pas nécessairement lu un article scientifique un jour dans leur vie, en général, en tout cas en biologie, il y a un abstract au début qui est donc un paragraphe plus ou moins court, mais en général ça fait pas plus de 10 lignes, qui va résumer l'étude, c'est-à-dire qui va d'abord placer le contexte de l'étude et enfin avoir 2-3 phrases de conclusion pour dire qu'est-ce que cette étude a apporté dans le domaine par rapport au titre qui est mis. Et donc, encore une fois, après, bah, on peut lire l'étude en complet, regarder les méthodes, comment elle a été faite, pour comprendre si c'est rigoureux ou pas, etc. Et donc là, l'idée du site, c'est pareil, quoi. C'est d'avoir une lecture qui soit possible très rapidement pour voir une réponse rapide à notre question. Mais si on s'intéresse vraiment au sujet, de pouvoir lire dans le détail.
Et de façon pas linéaire, parce qu'on a appris justement en lisant les articles qu'il ne faut pas les lire de façon linéaire. Ça ne se lit pas du tout comme un livre où on commence par le début et on feuillette, où on va lire ligne par ligne. C'est pas du tout comme ça qu'on va lire un article. On va commencer par regarder les figures, l'introduction, revenir à faire des allers-retours dans tous les sens. Et la controverse est construite un peu de la même façon, où on peut naviguer beaucoup plus facilement, passer d'une référence à l'autre, construire au fur et à mesure ce qu'on comprend, plutôt que de lire linéairement on a un contenu dynamique dans lequel on s'adapte au fur et à mesure.
Et on s'adapte, on écrit, mais c'est combien de monde tout ça? Parce que vous êtes que deux?
Non, c'est ça. Donc,
trois avec Judith.
Bon, vas-y. Moi, je pense que c'était plus conscient de moi du nombre de personnes.
Nombre de contributeurs qui sont inscrits. Alors après.
Oui, il y a différents niveaux de contribution.
Différents exactement. Mais
comment ça? On explique peut-être les niveaux aussi.
Ah oui, on peut. Vas-y. En nombre d'inscrits sur le site, je crois qu'on est au-dessus de 250.
Alors, personnes qui participent
voilà, et après, il y a ceux qui participent au développement du site, qui est complètement quelque chose de différent. Donc, parce qu'il faut faire de la communication, il faut coder, il faut venir à la radio.
C'est pas sympa, vas-y, dis-le.
Ah si, c'est génial, si. Mais on n'est pas 250 là.
Ah oui. C'est dommage, on s'est un peu serré.
Chouïa. Non, c'est pas il faut, c'est...
Non, mais je plaisante.
Je pense qu'on doit être peut-être une petite dizaine vraiment...
Vraiment actif.
Vraiment actif, mais sur l'organisation du site, des événements, de la communication, etc.
Ouais.
Et après, y a aussi tes partenariats avec deux universités actuellement quand même.
Oui.
C'est tout mentionné.
Oui, parce que... Et oui, donc la façon dont on a, fur et à mesure, compris comment le public qu'on allait toucher à la fois... pour la lecture et à la fois pour la contribution, on a affiné au fur et à mesure et en fait on s'est aperçu que des personnes qui sont très intéressées par ce genre de contenu là sont les professeurs en fait, parce que pour l'enseignement ils ont vraiment besoin d'avoir des réponses à ces questions là pour les enseigner. À l'inverse, les gens qui sont les mieux à même de parler de ces sujets là sont les chercheurs eux-mêmes, mais ils sont déjà hyper occupés par leur travail, ils ont très très peu le temps de s'occuper de ça.
Parce qu'il faut produire des articles, vous comprenez.
Parce qu'il faut les produire, exactement. Et par contre, ceux qui ont en général l'envie, mais qui ont un peu moins de connaissances, c'est les gens comme nous qui sont justement les étudiants. Et donc, on essaye d'avoir une chaîne où ce serait supervisé, disons, par des gens qui connaissent vraiment le domaine, donc les chercheurs. Le travail, est beaucoup, c'est les étudiants qui auront le temps et l'envie de le faire.
Mais ce que je voulais dire, c'est plus pour mentionner les deux partenariats que tu as directement quand même avec...
Oui, oui. Et du coup, ça a été intégré donc, cette année dans un master où... Deux masters.
Il tient aux deux. Hein. Ce sera deux ou rien.
C'est quand même cool.
C'est deux et de façon différente en plus. Parce qu'il y en a un master où justement...
On s'adapte à chaque fois, si c'est pas beau.
Voilà. On a un master où ils construisent les controverses et dans un autre dans lequel en fait ils travaillent beaucoup plus sur le site en lui-même. Donc comment améliorer le site, quelles sont par exemple, la traduction en anglais, du design, du graphisme, même le code en fait, qui a été fait, une partie du code qui a été fait par des étudiants de master en fait. Donc on a deux masters qui font deux choses différentes, un qui travaille sur le contenu et un qui travaille sur le site en lui-même. Et donc...
Et tout ça bénévolement, entre guillemets.
Oui, enfin.
J'ai posé la question qu'il fallait.
Non. Vous allez devenir milliardaire, c'est ça le truc. On a invité qui là en fait
on exploite des jeunes étudiants.
C'est ça.
Non, mais justement,
et nous-mêmes, on s'exploite nous-mêmes.
Mais, c'est souvent comme ça que c'est le mieux.
Comme dans le cadre d'un master, ça fait partie de leur cursus du coup.
Oui.
C'était ça là, un peu le sens de ma question.
Oui, du coup. Oui.
Il l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais l'un, c'est un master à l'université de Montpellier. Alors, je sais plus c'est quoi l'intitulé.
B2E. Non, c'est
en fait. Peut-être expliquer ce que ça veut dire.
Oui. Alors donc c'est B2E.
En fait c'est un groupement de masters où ils sont. Il y a des sciences de la vie, de l'évolution. Il y a en fait c'est des sciences de la santé. Enfin c'est beaucoup de. C'est différents cursus.
Mais enfin, tous en lien avec la biologie.
Ouais, tous en lien avec la biologie. Ouais. Différents cursus en lien avec la biologie et qui se retrouvent dans un même lieu.
Je me transforme en intervieweur.
Ça bien.
C'est
hein.
Très
bien.
C'est parfait.
C'est surtout que moi j'avais toujours pas compris ce que voulait dire B2E, donc je risquais pas de comprendre. Il sait plus non plus. Alors c'est pas grave. Et le deuxième
master, c'est l'ENS Lyon, du coup, dont on est tous les deux issus, hein, et ils ont donc une UE qui s'appelle Sciences et Sociétés.
Alors UE, ça veut dire
Une unité européenne
d'enseignement.
Unité d'enseignement, voilà.
Bah oui.
Et donc, le but, c'est justement de faire des ponts entre les sciences et la société, de dire en quoi, par exemple, une recherche scientifique peut avoir un impact, aussi pourquoi c'est important de ne pas frauder, etc. Et donc, dans ce cadre, Thibaut a interagi directement avec la personne qui dirigeait l'UE jusqu'à cette année. Pour créer un partenariat là-dessus et mettre les étudiants à contribution du site.
Et alors, du coup, moi, j'ai une question, c'est est-ce que vous voulez élargir le nombre de contributeurs et surtout le nombre de domaines pour controverses?
Oui, on aimerait beaucoup. Parce qu'en fait, on vient tous de biologie.
Ouais. Parce que j'avais compris un peu dans le.
Dans les sujets que ça traite, en fait, c'est vrai que la biologie est très sujette à controverse.
Ouais.
Mais on vient tous de biologie, donc du coup, les gens qu'on connaît sont aussi en biologie. Et donc, on s'est concentré un peu autour de la biologie. Et oui, nos objectifs, ce serait de s'étendre, effectivement.
Les sciences sociales sont très sous-représentées dans le site, quoi, par exemple.
Physique.
Oui.
Les sciences physiques, la chimie aussi est sous-représentée. Enfin, la biologie est sur-représentée en général.
Ouais. Donc, du coup, c'est l'occasion. Il faut lancer un appel là maintenant. Venez, rejoignez-nous. Et donc, il faut aller sur. C'est quoi l'adresse du site ?
controverscience.org.
Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit.
Science avec ou sans S. Je crois que les deux domaines. Je suis même sûr que les deux domaines pointent au même endroit.
Il a acheté les deux. Mais on l'a peut-être pas dit jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que je pense que le plus gros souci qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une demande très forte en fait en termes de lecture. C'est-à-dire que même nous, je pense qu'on est demandeurs d'informations scientifiques sur des domaines parce qu'on peut pas tout connaître. Hein, parce que souvent, je sais pas si vous avez déjà eu cette occasion dans la société, mais quand quelqu'un travaille dans un domaine de la science, alors tout de suite c'est mais toi tu dois savoir, t'es scientifique, alors que peut-être qu'il bosse en physique nucléaire et qu'il sait pas tout sur les OGM. Enfin,
exactement. Ouais,
mais souvent dans l'imaginaire collectif, le scientifique est le grand sage, comme dans les mythes antiques, qui sait tout. Donc,
c'est comme quand tu bosses dans la pharma et que les gens te demandent. Et alors, quand on m'a donné ça pour ma maladie, c'était bon, mais toi, tu n'es pas du tout médecin.
Voilà. mais c'est exactement la même chose.
C'est typiquement ça.
Et donc, je pense qu'on est beaucoup à être demandeurs d'informations sur plein de sujets différents. Et le souci qu'on a actuellement, c'est les contributeurs. Quand on a encore un peu de mal à motiver assez de personnes à contribuer au site pour développer.
C'est très dur.
Ouais.
C'est un travail de bibliographie qui demande d'avoir lu, d'analyser.
Les gens n'ont pas le temps, quoi.
Pas le temps, et c'est aussi très dur de dire « je mets cet article-là, parce que je pense qu'avec cet article-là, j'ai raison, et ça a quelque chose à faire dans cette controverse-là. Mm. » C'est quand même assez dur à faire.
Et puis, il faut connaître le domaine en question.
Oui,
il
ne faut pas avoir peur de montrer ce qu'il y a. Alors qu'on peut se dire « je connais qu'une toute petite partie du domaine, je ne le fais pas. Quelqu'un connaît mieux que moi. Mm. »
Ah non, c'est moi alors. Non, je croyais que tu allais relancer, pardon.
J'allais leur proposer qu'on leur laisse les micros. Je trouvais que c'était très bien, cet échange entre deux.
Non, mais moi, par contre, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse la petite coupure musicale, parce qu'après, on a bientôt terminé l'émission.
Oui, et il y en a quelques brèves aussi.
Et on a quelques brèves à case derrière. Ah. Voilà. Donc, musique.
Cool. Can't stop me, motherfucker.
drink. I'm on a boat, bitch. We drinking Santana champ, cause it's so crisp. I got my swim trunks and my flipping floppies. I'm flipping burgers, you at Kinko's, straight flipping cabbage. I'm riding on a dolphin, doing flips and shit. The dolphin splashing, getting everybody all wet. But this ain't SeaWorld, this is real as it gets. I'm on a boat, motherfucker, don't you ever forget. I'm on a boat and it's going fast and I got a nautical theme, patch me to Afghan. I'm the king of the world on a boat like Leo. If you own the show, then you show not me. Oh,
voilà.
C'était yeah.
Ok. La causerie de Radio Canu, 22-23 tous les dimanches.
Mais on est scientifique.
Et donc, oui, on reçoit Controversience ce soir qui est venu présenter le site. Ils n'auront pas le temps de faire beaucoup plus que de présenter le site ce soir. Et donc, on a écouté quoi, Thibaut?
Parce que on a eu le temps de vous faire écouter The Lonely Island, I'm on a Boat.
C'est
une dédicace à Paul.
Voilà.
Paul, si tu nous écoutes, tu peux appeler.
Je n'ai plus le numéro. Je voulais le donner, mais je ne l'ai plus.
On lui a donné l'or, alors.
Ah, bon. Et donc, Lara, tu peux le rappeler.
04 78 39 18 15.
Ça, on va le couper, on le mettra en deux. Pas de jingle. Merci, Clara. Et donc, pour terminer, tu voulais parler de ce qu'il allait y avoir après, notamment en termes de... Moi, je voulais que tu abordes la question du financement et de la réflexion que vous aviez entamée autour du financement du site. Mmh. Et puis, voilà. Et puis la suite.
Alors, pour le financement, on vient de créer une association. Controversience et al. C'est une référence. Alors, c'est vrai que c'est une blague un peu de scientifique. Parce que et al, c'est ce qu'on utilise en fait pour désigner les auteurs. Quand on a plusieurs auteurs, on va dire le premier auteur et al, qui veut dire et ses collaborateurs. Donc, pour Controversience et al, c'est ce qu'on a pris.
Non, je suis juste en train de me dire que ça vient du latin, mais je me rappelle jamais ce que c'est en latin.
Oh, tu dis et tout mal que c'est, et puis ça va être joli comme ça, tous les gens y croient, ils sont contents. C'est faux, hein.
Non, mais c'est pas grave.
Donc, ça, c'est l'association, du coup. Et donc, dans l'avenir, vous comptez vous appuyer sur l'asso pour faire vivre le site, c'est ça?
Le site et d'autres projets, en fait, on réfléchissait à d'autres projets qu'on a un peu dans les cartons.
D'ailleurs, ça peut même être un appel. Hein, s'il y a d'autres personnes qui ont des projets et qu'elles veulent monter, qu'elles n'hésitent pas à profiter de la structure administrative qu'est l'association pour le développer sans avoir à elle-même créer une asso. Quoi. C'était aussi l'idée.
C'est exactement pour ça qu'on l'a créé.
À condition que ce soit lié à la médiation scientifique.
Ah, il a fait gaffe. Hein.
Enfin, parce qu'il a sorti le flingue, là.
Non, mais j'essaie de provoquer Paul à nous appeler, mais ça marche pas.
Voilà. Et c'est.
Et pour les financements, on a les coûts de serveur actuellement, donc c'est pas exorbitant, mais on cherche des financements.
On se rappelle plus, ça coûte combien un serveur?
Ça coûte actuellement cher pour un serveur parce que c'est pas moi qui fais la gestion et l'administration, donc en fait, je paye un service qui s'occupe de ça. Ce qui fait que ça me revient assez cher, de l'ordre de 40 euros par mois.
D'accord.
Ça peut être beaucoup moins que ça, en fait, si on a son propre serveur et qu'on sait s'en occuper. Mais là, je fais appel à un service qui s'occupe de tout lancer et de le relancer quand ça foire et ce genre de choses, qui coûte un peu plus cher. Mais effectivement, là, actuellement, on est sur des questions de comment est-ce qu'on s'organise pour la suite, comment est-ce qu'on s'étend, comment est-ce qu'on fera appel à d'autres masters, dans quelle direction est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va trouver des financements.
Et surtout des contributeurs.
Et des contributeurs.
C'est l'essence même du site, c'est que s'il n'y a pas de personnes qui contribuent, le site, il ne vit pas, quoi. Donc encore une fois un petit appel, s'il y a des scientifiques qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller sur controversience.org et à vous inscrire et à apporter votre contribution au développement des controverses ou même faire des nouvelles.
Et comme on l'avait dit hors antenne, on va le dire à l'antenne, et si un jour vous avez envie de revenir dans la causerie, parler d'une controverse scientifique, c'est avec un grand
très
plaisir.
Intéressant de...
Voilà. Bon, faudra vulgariser un minimum. Là, c'est moi qui le dis.
Alors, on peut l'expliquer, c'est qu'on a eu un débat très tendu.
Ah bon?
Pas forcément tendu. En fait, non, pas forcément tendu, mais on a cherché à se mettre d'accord sur quel est le mot qu'il fallait utiliser, parce que vulgarisation, ça va pas. Diffusion, ça va pas non plus.
Pourquoi ça va pas?
Vous refaites pas le débat là. Donc, on n'a pas le temps là.
Mais on peut le résumer en l'espace de 10 secondes, c'est que médiation, c'est que ça fait vraiment la passerelle en fait entre les scientifiques et ceux qui ne le sont pas, et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire avec Controversience, d'être une passerelle entre deux mondes.
Mais donc, comme je le disais, si vous voulez repasser une passerelle radiophonique un jour, c'est avec plaisir.
Ah bah, grand voilà. Plaisir.
C'est noté. Ah ouais, des fois je dis des trucs bien à la radio. Genre je me faisais ouais avec ses doigts. Mais à la radio personne ne le voit.
Non, c'est vrai.
Ben merci en tout cas, on reviendra vous dire au revoir après. On va caser quelques brèves qu'on a à caser là dans l'émission, comme d'habitude. Voilà, donc ben, c'est Jean-Yves qui commence.
Oui, ben, ça commence par un rendez-vous qui est demain. C'est un rassemblement unitaire devant le MEDEF. C'est au 60 avenue Jean Mermoz, c'est à midi. Ce sera suivi d'une assemblée générale unitaire à la Bourse du Travail à 14h. Et en fait, c'est contre les attaques du MEDEF sur l'assurance chômage et le despotisme qu'il exerce sur le monde du travail. Et pour la convergence des mobilisations à Lyon dans une coordination commune, en fait. Et c'est à l'appel du collectif unitaire 69 qui est au sein de la coordination nationale des intermittents, chômeurs et salariés précaires. Donc voilà, demain, c'est parce qu'en fait, demain commence aussi la renégociation.
Ouais, enfin,
je sais pas comment on peut appeler ça en fait.
C'est il y a des ce qu'ils appellent des négociations pluriannuelles, c'est-à-dire que plusieurs fois dans l'année, on se voit pour discuter de comment on paye l'UNEDIC, tout ça, tout ça. Et là, il y a notamment tout ce qui concerne les intermittents qui va être discuté à partir de lundi.
Voilà. Ouais. Et je rappelle aussi les permanences juridiques qu'il y a toujours à la Lutine tous les lundis de 18h30 à 20h pour les sans-papiers et leur soutien. Et enfin, en tout cas, si vous pouvez apporter de l'aide et des informations, n'hésitez pas. Je continue. Le mardi. On vous rappelle aussi un rendez-vous qu'on vous rappelle assez régulièrement.
Welcome
c'est à la
Hotel California.
C'est ça. Super. Merci Fab. On s'en souviendra. Donc c'est la cantine de l'Hotel California. On rappelle, c'est un immeuble occupé en fait. Et tous les mardis, c'est cantine avec les bougies et tout ça et tout ça. Et c'est au 69. Au 69.
Le 69.
Oh bah oui.
What the fuck.
Au 69 boulevard Pidel.
C'est ça, super, voilà. Merci.
Dans le 8ème.
Allez, super, merci.
Tu peux continuer ou pas?
Ouais. Oui, je sais. Pardon.
Ça arrive. Alors.
Je pense que tu peux mettre l'effet cathédrale, là, ça peut tuer.
Vas-y, donne-moi ton papier, je vais continuer pour les news. Wow. Donc, c'était pas facile. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? Ah oui, mardi 23. Si vous pouvez aussi aller au cinéma Le Zola, à Villeurbanne, au 117 cours Émile Zola.
Métro Émile Zola. Pour Émile Zola, au cinéma oui. Zola.
Mais arrêtez. Bon, je disais donc, au Zola, à 20h30, le mardi 23, il y a une projection débat autour du film. C'est quoi ce travail? Voilà, c'est 6,70€ l'entrée, c'est le prix habituel de l'entrée du Zola. Et il y a un tarif réduit pour les chômeurs et les moins de 26 ans.
Voilà, et c'est en présence du réalisateur. Arrête de rire, je ne vais pas y arriver. C'est en présence du réalisateur et il y aura un débat autour de la notion de travail. Est-ce qu'il y a autre chose là-dessus? Non, c'est tout.
C'est non, tout. Tu vois, après, c'est vide.
Mais c'est au Zola, alors, il y a aussi le, ciné, le oui, festival du cinéma numérique et latino-américain à partir du 9 jusqu'au 23 mars. Ouais.
Et d'ailleurs, j'en profite pour faire des bisous à Pascal.
Ouais.
Et enfin, à tous, je pense. Et alors, moi, j'ai deux dernières brèves. Vous vous souvenez sûrement qu'on a reçu une association qui s'appelle la FRACO. C'était Clara qui était venue nous présenter l'association. Et donc, la FRACO organise le 26. Donc, 26, c'est quoi? C'est jeudi ou. Je sais plus. Je sais plus, pardon. Non, je sais plus. Ça va être donc, le 26. Hein. C'est un café. Vendredi. C'est vendredi 26, voilà. Un café FRACO. Alors, c'est pour discuter autour de l'association. Et comme elle le disait dans l'émission, si vous voulez rejoindre l'association, c'est l'occasion de les rencontrer. Voilà, c'est à 18h. C'est à la COP du Zèbre. Et c'est 22 rue Baptiste Sepp. Voilà. Et le lendemain, le 27. Comme vous savez, la FRACO a des artistes qui viennent de temps en temps pour les soutenir. Et là, il y a deux artistes qui viennent. Donc, c'est à partir de 19h au 31, au bar Le 31 à Oullins. Donc, c'est 31 rue Pierre Sénard, ou Sémar, pardon. Voilà, c'est en face du métro, du nouveau métro qui s'arrête à Oullins. Arrête de rire, je ne peux plus, là. Donc, voilà. Et donc, il y aura la chorale Banam Boka, qui vient chanter des titres qui viennent du Congo. Et ensuite, il y a un duo entre Sadou et Alex Argir, voilà, qui vont faire de la musique du monde. Alex Argir s'occupant des percus. Et Sadou Sardou étant en guitare. Non, Sadou, S-A-D-O-O, étant en guitare-voix. Voilà. Voilà, donc c'était pour dire que si vous voulez soutenir la FRACO qui était passée, c'est l'occasion d'y aller, voilà. Et c'est tout pour les brèves, ça fut rudement difficile.
Je suis désolé. Est-ce qu'on rappelle le site internet de Controversience?
Il n'y a pas de 69 dedans.
C'est mauvais, là. Bah, je vous laisse le rappeler. Il y a encore quelqu'un?
Allô, Controversience, allô.
On a très mal aux abdos ici.
Non mais c'est pas possible.
Personne n'y arrive.
Sur controversience.org.
Alors, controversience.org, voilà. Et sinon, l'émission, on pourrait la retrouver sur les blogs de Radio Canu à partir de demain, normalement, voilà, si tout se passe bien. Enfin, sauf si Jean-Yves est décédé d'ici là, on ne sait pas trop pour s'étouffer en riant. La semaine prochaine, on a une autre association oui. qui vient nous voir, qui est le Jardin d'été, une association trans. Voilà, et on vous donnera rendez-vous à partir de 22h dimanche prochain. Et on parlait de la FRACO, et bien grâce à la FRACO, le 6 mars, on aura dans l'émission Filippo Enco, qui est un je sais pas comment on peut dire, reggae-man, on peut dire ça comme ça.
Ouais, c'est un peu teinté quand même de musique, un peu partout.
Voilà, et qui viendra jouer Mort ici, et voilà. Musique le 6 mars.
Ouais.
Et bien sûr, Georges, qu'on retrouvera le 20 mars.
Le 20 mars.
Où je vous parlerai probablement de la 9e planète.
Oui. Oh, qu'il est mauvais, aussi.
C'est parfait.
Ah, mais c'est pas vrai.
Bon, ben, Nico, Théo. Oui.
Thibaut.
Je t'appelle Théo. Je vais aller me coucher, moi.
Mais moi, vous pouvez aussi me retrouver samedi prochain à 13h.
Voilà,
sur les mêmes ondes.
Le petit c'est bazar, ça. Les samedis à 13h. Et puis donc, Nico et Thibaut, et pas Théo du tout. Merci d'être venu. Et
Julie
qui n'a rien dit, mais qui dessine très bien. Allez voir sur Controversions, elle fait des trucs sympas pour les contributeurs. Voilà.
Et on remercie Clara aussi qui était à la technique encore une fois ce soir. Merci. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et bon courage pour la semaine à venir.
Et merci d'avoir tenu jusqu'au bout.
Ouais, c'était pas facile. Des bisous. Et on se quitte avec quoi?
Ah oui, la musique.
La musique.
Emma White, Colors.
Yes. Merci beaucoup. Merci. Ciao à tous.
Salut.
Ciao.
Bonne nuit.
Bisous.
Oui.